Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères, nous venons de recevoir les cendres, symbole tout à la fois du néant d'où nous avons été tirés, mais aussi de la mort, qui sera notre partage assuré dans peu de temps. Ces cendres sont encore le symbole de cette pénitence que nous devons pratiquer ici-bas, jour après jour, sans nous lasser, dans le but d'expier nos péchés et d'être agréable à Dieu. Par la réception de ces cendres, un nouveau carême commence. Un temps nouveau nous est donné pour faire pénitence de nos péchés. Une nouvelle occasion nous est offerte pour progresser dans l'amour du bon Dieu. De fait, un carême est un peu comme une grande retraite que ferait toute l'Église. Aussi, puisque nous voulons être de dignes fils de notre Sainte Mère l'Église, nous devons nous aussi entrer généreusement dans cette grande retraite qu'est le carême. Mais écoutons les encouragements de Saint Jean Chrysostome. Voici ce qu'il nous dit. De la même façon que l'arche reçut en elle des rapaces, des loups et des serpents, l'Église, elle aussi, reçoit en son sein des rapaces, des loups et des serpents. Les pécheurs que nous sommes, voilà. Ces rapaces, ces loups, ces serpents, ce sont nous. L'arche les a reçus et les a gardés tels. Mais l'Église est bien supérieure à l'arche, puisqu'elle les change. Le rapace est rentré dans l'arche et il en est sorti rapace. Le loup y est entré et il en est sorti loup. Mais on entre rapace dans l'Église et l'on en sort colombe. On entre loup, mais l'on en sort brebis. On y entre serpent, mais c'est un agneau qui sort. Non parce que la nature a été changée, mais parce que le vice en a été banni. Comment cela ? Par la pénitence, nous répond Saint Jean Chrysostome. Cette pénitence qui paraît si pénible à la nature, si terrible, et qui pourtant est le remède des péchés. Elle seule nous ouvre le ciel. Si vous ne faites pénitence, vous périrez tous, nous a dit notre Seigneur. Cependant, on ne fait pas pénitence de n'importe quelle façon. Saint Paul nous avertit, en parlant de lui-même, « Je cours non comme à l'aventure, je combats non comme battant l'air, mais je châtie mon corps. » et le réduit en servitude de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne devienne réprouvé moi-même. Je cours non comme à l'aventure. Et il est de coutume, en tout début de carême, pour ne pas courir à l'aventure, et c'est une bonne coutume, de prendre des résolutions de pénitence, des résolutions d'actes de vertu. Or, prendre une résolution, une bonne résolution qui nous convienne, qui nous aide véritablement à progresser, est tout un art. Et pour cela, il y a des règles à suivre. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Première règle. Une bonne résolution doit être difficile, mais cependant non impossible. Une résolution doit nous coûter quelque chose. Une résolution qui ne coûte rien, qui n'engage pas à grand-chose, ne sert pas à grand-chose. Était-il besoin de prendre une résolution pour faire si peu? Et d'un autre côté, une résolution doit être possible. Une résolution qui serait impossible à tenir nous découragerait infailliblement et au final nous ne ferions plus rien. Bien sûr, quand il s'agit de sortir du péché mortel, tout doit être mis en place. Deuxième règle, prendre peu de résolutions. Car s'embarrasser de trop de résolutions, c'est s'engager ici encore à n'en tenir aucune. Qui embrasse trop, mal étreint, dit le dicton français, et un dicton allemand dit à peu près la même chose sous cette forme, 12 travaux, 13 malheurs. Aussi, lors d'une bataille, un bon chef de guerre ne disperse pas ses troupes en attaquant en même temps toutes les positions ennemies. Au contraire, il cherche à concentrer ses forces contre quelques positions clés. D'où la troisième règle, bien cibler ses résolutions. Nous devons nous aussi concentrer nos forces spirituelles contre quelques positions clés dans le combat spirituel, et cela surtout contre notre défaut dominant. C'est ça la grande position clé. Cependant, il est vrai que le défaut dominant n'est pas toujours facile à connaître. On a souvent du mal à cerner son défaut dominant. Pour le discerner, il faut tout d'abord en demander à Dieu la lumière. C'est la première chose à faire pour connaître son défaut dominant, la grâce de Dieu, les lumières du Saint-Esprit. Ensuite, il faut s'interroger. Sur quoi tendent mes préoccupations les plus ordinaires? Par exemple, le matin au réveil. Ou bien, quand je suis seul, quels sont les sujets sur lesquels se portent spontanément mes pensées et mes désirs? Le défaut dominant commande aussi facilement à toutes nos passions et se donne l'apparence d'une vertu. S'il n'est pas combattu, il pourrait conduire à l'impénitence. Ce fut le cas de Judas, qui n'a pas su ni voulu dominer l'avarice, et il est tombé. Quelle est généralement aussi la cause de nos tristesses et de nos joies? Quel est le motif général de nos actions? L'origine ordinaire de nos péchés, surtout quand il s'agit d'une suite de péchés ou d'un état de résistance à la grâce, notamment lorsque cela dure plusieurs jours et que nous sommes portés à omettre nos exercices de piété. Alors il faut sincèrement chercher pour quel motif mon âme refuse-t-elle de revenir au bien. Enfin, notre confesseur pourra nous éclairer et donner des conseils. Mais en tout cas, il est sûr que chaque carême doit être l'occasion de resserrer davantage l'étau sur notre défaut dominant. Quatrième règle. Une résolution doit être concrète, pratique, portée sur un moyen très concret. Une résolution trop générale du type « je vais chercher à m'améliorer » ou bien encore « je serai plus charitable » ou bien « je ferai pénitence » n'a aucun intérêt. Il est certain que cette résolution ne sera jamais tenue. Faute d'avoir prévu une action bien précise, nous resterons dans le vague et quand viendra le temps de l'examen de conscience, le soir, nous serons bien incapables de juger si oui ou non nous nous sommes améliorés, nous avons été charitables, nous avons fait pénitence. Très compliqué avec de telles résolutions de faire un examen de conscience précis. Cela revient à appuyer sur l'accélérateur d'une voiture sans pousser de vitesse. On reste au point mort. Ça ronfle, mais on n'avance pas. Au contraire, il est facile de vérifier si l'on a fait effort pour aller rendre visite à telle personne que nous avons beaucoup de mal à supporter. Il est facile de vérifier si au volant, à chaque fois que nous avons été contrariés, au lieu de râler, d'être grossier, nous avons fait l'effort de dire un Ave Maria, de tourner nos regards vers le bon Dieu. Ça, c'est facile à vérifier. Oui ou non? Dernière règle. L'agere contra. Il nous faut aller directement contre nos défauts. On ne chasse le froid que par le chaud, le dur que par le doux, etc. Ainsi, en exerçant la vertu contraire à notre défaut dominant, nous le combattrons beaucoup plus efficacement. Contre la colère, opposons une résolution de douceur, de patience. Contre la paresse, des actes énergiques. Ceux qui parlent trop d'eux-mêmes doivent chercher à se faire oublier, à mettre les autres en évidence. Rappelons-nous donc bien ces cinq règles. Résolution possible, qui coûte quelque chose. Une résolution bien ciblée, sur le défaut dominant si possible. très concrète et qui attaque de front nos défauts et des révolutions peu nombreuses. Donnons maintenant quelques champs d'application sur lesquels pourraient porter nos résolutions et auxquels nous pourrions ne pas penser de prime abord. Tout d'abord, il est facile en ce début de carême de penser à une résolution de pénitence corporelle. Je vous conseille fortement, pendant ce carême, de lire chaque jour les messes de carême. Vous verrez que dans chacune des messes, ou presque, c'est très régulier, l'Église offre en votre nom vos jeûnes. Les jeûnes qui sont accomplis par le peuple chrétien. Pour pouvoir s'associer à ces prières, il faut un minimum jeûner. Participer à ce grand jeûne de l'Église. Avant, tous les chrétiens, sans exception, depuis la majorité jusqu'à la vieillesse, pratiquaient le jeûne des 40 jours. Et tout le monde y arrivait. C'est possible. C'est possible. Alors n'hésitez pas, dans un premier temps, déjà, si vous n'avez jamais jeûné, au moins jeûner tous les vendredis de carême. Si vous avez déjà l'habitude de jeûner tous les vendredis de carême, ajoutez peut-être le mercredi, et ainsi de suite, pour un jour tendre à ces 40 jours. Il est important de rentrer dans l'esprit de l'Église. Et bien sûr, il y a d'autres pénitences corporelles que l'on peut ajouter. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut prendre en ce début de carême au moins une pénitence corporelle. Mais ce n'est pas tout. Autre champ d'application. Notre cadre extérieur de vie. Celui-ci doit être soumis à Dieu et non à notre fantaisie. Et c'est pourquoi nos journées doivent être réglées par des horaires. Si nous avons un tempérament un peu négligent, veillons à nous imposer un cadre de vie plus serré. Ensuite, autre champ d'application, par rapport aux occasions de péché. À quel danger sommes-nous exposés? Il y a des endroits, des personnes, des moments de la journée où il nous faut veiller. Des choses qu'il nous faut éviter. S'il n'y a pas nécessité de justice ou de charité, c'est aussi sur ce que nous lisons qu'il faut veiller. Sur l'usage de l'ordinateur, d'Internet, du portable, est-ce vraiment utile? Combien de temps est-ce que j'y passe? Etc. Nous pouvons aussi prendre des résolutions pour éviter des péchés d'omission. Des choses que nous devrions faire et que nous ne faisons pas. Ces péchés sont en général assez difficiles à cerner, puisqu'il n'y a pas d'acte concret. Ainsi, un père de famille qui doit corriger ses enfants et ne le fait pas, pêche par omission. Ce carême peut être aussi encore l'occasion de réparer des dommages que nos péchés ont pu causer. Si j'ai lésé, par exemple, la réputation de mon prochain par des médisances, je dois faire tout ce que je peux avec prudence et sagesse pour rétablir l'honneur de cette personne, en disant du bien. Concluons avec Don Marmion. Voici ce que nous dit le grand auteur spirituel bénédictin. Je suis persuadé, dit-il, que ces mortifications possèdent une vertu quasi sacramentelle pour produire et maintenir l'onction et la ferveur dans les âmes. Mais il faut que nous soyons convaincus que nos mortifications ne valent qu'autant qu'elles sont unies à celles du Christ. La vertu de pénitence, selon Don Marmion, doit être avant tout animée de l'esprit de componction. Il y a un esprit à mettre dans nos pénitences de carême, dans nos résolutions. C'est-à-dire, cet esprit de componction est la détestation habituelle du mal que nous avons personnellement commis. Il faut faire pénitence pour nos péchés, parce que nous avons offensé l'amour de Dieu. Et grâce à cette vertu de componction, alors se maintiendra dans notre âme cette inflexible et salutaire haine du péché, qui est l'un des plus puissants leviers de la vie spirituelle pour la garder de tout mal. Ce sentiment de contrition expie le péché, consolide le présent et préserve de toute rechute. Et ainsi, toute spiritualité chrétienne repose sur le mystère de la croix. Que notre bonne Mère du Ciel daigne donc nous éclairer sur ce qu'elle désire que nous corrigions en nous pendant ce carême, qu'elle nous donne surtout la force de l'accomplir avec une vraie contrition, un vrai regret du péché. Et alors notre carême sera des plus agréables à son cœur, aux yeux de Dieu. Et Notre-Dame le bénira sans mesure. C'est ce que nous demanderons pendant cette messe, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.